écoutez Radio France Internationale et vous avez bien raison, il est minuit, ici à Paris, 22h en temps universel.
24h en France.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans 24h en France et on va décortiquer ensemble pendant une demi-heure l'actualité française et rien que l'actualité française à tête reposée.
Stéphane Genest.
Et d'abord le journal, avec à la une Emmanuel Macron qui a reçu son Premier ministre Michel Barnier tout à l'heure. Il lui a proposé un gouvernement. Présentation de cette équipe gouvernementale avant dimanche. Voilà ce que fait savoir Matignon. Situation très tendue en Martinique, l'île est toujours sous couvre-feu. Et la fin de la première journée de phase de poule de la Ligue des Champions. Deux clubs français en compétition ce soir. Brest s'est imposé face aux Autrichiens du Sturm Graz. Et Monaco l'a emporté face à Barcelone.
RFI.
On n'a jamais été aussi proche d'une présentation d'un nouveau gouvernement après 24 heures de fortes tensions et d'ultimes négociations. Michel Barnier a présenté tout à l'heure une proposition d'équipe à Emmanuel Macron. Pas de déclaration officielle, mais une échéance. En tout cas, Matignon indique ce soir que les nouveaux ministres seront présentés avant dimanche. Et pour ce faire, le chef du gouvernement à venir a réuni ce jeudi après-midi les dirigeants des Républicains, de l'UDI et des partis du camp présidentiel pour leur présenter le résultat de son casting, Aurélien Devernoy.
Et l'objet de la rencontre entre Michel Barnier et Emmanuel Macron était évidemment de présenter la liste définitive, a priori parce qu'il peut toujours y avoir des surprises, du nouveau gouvernement. Il aura donc fallu 2 semaines pour le Premier ministre pour parvenir à l'équilibre délicat fixé par le chef de l'État, du rassemblement et un respect du rapport de force dans la coalition nouvellement formée. Cela n'a pas été de tout repos avec des mouvements d'humeur, aussi bien du côté d'Ensemble pour la République, le parti présidentiel, que chez les Républicains. Ce qui se dessine en tout cas ce soir, c'est une équipe gouvernementale assez importante avec 38 membres, soit 4 de plus que le gouvernement sortant de Gabriel Attal. Au sein de cette nouvelle équipe, 16 ministres de plein exercice, dont 10 issus directement du camp présidentiel et 3 des Républicains. La droite récupérerait toutefois le stratégique ministère de l'Intérieur. Les affaires étrangères iraient de leur côté au centriste modéré du Modem, tout comme la santé. Incertitude encore concernant le ministère de l'Économie et des Finances, poste ô combien sous pression avec le budget difficile à négocier. Le patron des LR, Laurent Wauquiez, a annoncé qu'il avait refusé le poste.
Aurélien Devernoy du service politique de RFI, justement, on évoquait ces profils qui pourraient composer ce gouvernement. Différentes sources proches des consultations en font état de quelques-uns de ces profils. Pêle-mêle, Sébastien Lecornu qui serait lui reconduit aux armées, Catherine Vautrin nommée au territoire, Bruno Retailleau à l'intérieur ou encore le sénateur François-Noël Buffet aux Outre-mer. Et une fois que ce gouvernement sera nommé, plusieurs dossiers brûlants seront à traiter, hormis celui du budget qu'il va vite falloir régler. Les ministres devront sans doute aussi se pencher sur la situation en Martinique. La situation toujours très tendue dans cette île française des Caraïbes, puisque l'entrée en vigueur d'un couvre-feu partiel n'a pas empêché la poursuite des violences. La nuit dernière, les forces de sécurité ont dû affronter des tirs à balles réelles, mais aussi des jets de cocktails Molotov. Il n'y a pas eu de blessés, mais 12 personnes ont été interpellées. Les Martiniquais qui protestent depuis plusieurs jours contre la vie chère, comme dans les autres départements et régions d'outre-mer, le coût de la vie est en effet bien plus élevé qu'en métropole. De quoi nourrir la colère des habitants. Serge Letchimy est le président du conseil exécutif de Martinique.
La situation est extrêmement tendue. La tension est palpable à la fois dans la société en Martinique, parce qu'il y a des actes de violence, il y a des manifestations. Parallèlement, il y a une revendication qui est partagée par une très grande partie de la population et de lutte contre la vie chère, d'une situation inacceptable, inadmissible. Quand on parle de vie chère ici, c'est véritablement quelque chose qui devient insupportable compte tenu de la situation sociale du pays. Vous savez, vous avez 76 000 personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et le taux de pauvreté touche les 35-40% quand c'est 14% dans l'Hexagone. Bon, ça montre qu'il y a une économie de comptoir, d'importation massive, une précarisation sous fond de richesse, mais il y a un tissu social extrêmement mauvais, où la précarité domine, où les gens ont du mal. Donc pratiquement 100% des revenus de ceux qui sont dans le RSA passent en alimentation.
Des propos recueillis par Sylvie Coffi en Martinique, où l'on entend, c'est très tendu dans certains quartiers de Fort-de-France. En Nouvelle-Calédonie également, autre territoire français d'outre-mer, mais dans le Pacifique Sud, des affrontements ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre. Il y a quelques heures, 2 personnes ont été tuées. Des tensions qui prennent dans l'ampleur donc dans plusieurs territoires ultramarins français. Situation qui risque encore plus de s'aggraver d'après le député LFI Bastien Lachaud, d'autant que la France n'a toujours pas de gouvernement.
Ce qui est certain, c'est que nous avons aujourd'hui une situation dans les territoires ultramarins en France catastrophique. Il y a une cherté de la vie qui est telle que les populations ont du mal à survivre et le gouvernement précédent et le nouveau ne font strictement rien pour apaiser les choses et résoudre les problèmes. À cela se superpose une gestion coloniale des problèmes. En Nouvelle-Calédonie, c'est une évidence. Cela a aussi tendance à transparaître dans les territoires antillais où la répression semble être la seule mesure prise par le gouvernement face aux problèmes que rencontre la population.
L'actualité en France à minuit 5 ici à Paris, elle est aussi marquée par cette nouvelle audience très forte à Avignon. Audience éprouvante au procès de Mazan où Gisèle Pellicot fait face à son mari accusé d'avoir recruté des dizaines d'hommes sur internet pour la violer après l'avoir droguée, mais aussi à 50 de ses violeurs présumés dont la majorité affirme avoir cru participer à un scénario libertin et donc qu'elle était consentante. Le premier de ces 50 accusés justement s'est exprimé ce jeudi, il s'appelle Lionel, c'est un vendeur, il a aujourd'hui 44 ans, il a reconnu les faits, compte rendu d'audience signé Laura Martel.
Dès son arrivée à la barre, Lionel expose sa position. « Je n'ai jamais eu l'intention de violer Madame Pellicot, mais n'ayant jamais eu son consentement, je ne peux que constater les faits. » Marié, père de 3 enfants, Lionel mène une vie heureuse avant de tomber dans une sombre spirale. Alcool, dépression, endettement, infidélité. Et puis un jour, parmi les propositions qu'il reçoit sur le site porno Coco, celle de Dominique Pellicot pour une relation à trois. Une proposition un peu originale, concède-t-il. Il dit qu'il est en couple, mais qu'elle dormira. Il me parle de cachet qu'il lui donne ou qu'elle prend elle-même. Ce n'est pas très clair, mais à ce moment là, je ne me pose pas plus de questions, je suis persuadée que c'est un fantasme de couple. Sur place, Madame Pellicot dort vraiment, c'est clair, pointe-t-il, mais je fais ce qu'il me dit de faire, ce n'est pas une excuse, mais je perds complètement pied. Ce n'est que 30 minutes plus tard, quand Dominique Pellicot le fait sortir de la chambre parce que Gisèle bouge, qu'il réagit. Je réalise qu'il y a un gros problème, puisqu'il ne faut pas qu'elle se réveille devant moi. Lionel exprime ses regrets de ne pas avoir prévenu la police, notamment par lâcheté, et multiplie les excuses à Gisèle Pellicot, elle reste de marbre. Je me sens coupable de viol, des actes, répète l'accusé, mais c'était involontaire, même si j'aurais dû partir bien avant. Dans le box, Dominique Pellicot commente acerbe. Il se repent, mais c'est peut-être un peu tard.
Le récit de notre envoyé spécial à Avignon, Laura Martel.
24 heures en France.
Le football, puisque la première journée de phase de poule de la Ligue des Champions s'est achevée ce jeudi soir. 2 clubs français étaient en compétition, 2 clubs qui ont gagné. D'abord Monaco, les Monégasques qui l'ont emporté face au FC Barcelone 2-1. Et c'est également à retenir, un Brest a réussi son entrée en Ligue des Champions en s'imposant aussi 2-1 contre les Autrichiens de Sturm Graz. Victoire historique puisque les Bretons jouaient là leur premier match de Ligue des Champions de leur histoire. Le milieu de terrain Hugo Magnetti a ouvert le score et a mis son équipe sur les rails du succès.
C'est sûr que c'est un rêve d'enfant de jouer cette compétition, surtout avec ce premier match, cette première victoire devant notre public, c'est historique. Donc on en est tous fiers et on va profiter. C'est une fierté d'avoir marqué ce premier but historique déjà en Coupe d'Europe avec le Stade Brestois, mais plus en Ligue des Champions. Donc c'est une très grosse fierté et je suis très heureux d'avoir marqué l'histoire avec ce premier but.
Le milieu de terrain brestois, Hugo Magnetti, au micro de nos confrères de Canal+. Prochain match de Ligue des Champions pour Brest, ce sera mardi dans 2 semaines face à Salzbourg. On poursuit en musique puisque Manu Chao sort un nouvel album. Cela faisait 17 ans qu'il n'en avait pas sorti. Le retour dans les bacs du chanteur franco-espagnol avec Viva Tu, que l'on pourrait traduire par Vive-toi ou Longue vie à toi. C'est son 5e disque solo et Edmond Sadaka l'a écouté pour nous.
Des cordes grattées à la guitare, des rythmes souvent reggae, des paroles engagées, Manu Chao reste fidèle à ce qui a fait son succès depuis son premier album solo en 1998. Ce nouveau disque navigue entre l'Afrique, l'Europe et l'Amérique. Sur les 13 chansons, la langue espagnole domine, même si l'on trouve quelques textes en anglais et en français.
Il est 10h et les enfants jouent dans la cour, sur les gravats de notre amour.
À 63 ans, celui qui vit à Barcelone depuis des années reste fidèle à ses combats. Il refuse les règles de l'industrie musicale, il n'accorde plus la moindre interview. Pas de quoi entamer en tout cas sa popularité. Mardi dernier, il a pu le constater lors d'un concert à Vitry, en banlieue parisienne. Il y a rassemblé quelques 1200 personnes, toutes générations confondues, casquettes vissées sur la tête, poings en l'air. Il s'est produit dans une ambiance électrique, alors que le concert était lui en version purement acoustique, avec guitare et percussion.
Lonely Night, que l'on écoute dans 24 heures en France, extrait du nouvel album de Manu Chao, album qui s'appelle Vivatu, et il sort ce vendredi. Il est minuit 10 ici à Paris.
24 heures en France, Stéphane Genest.
Et on l'évoquait dans le journal, la Martinique qui a donc passé sa première nuit sous couvre-feu. Décision des autorités après de nouvelles violences en marge du mouvement de contestation contre la vie chère. La vie très chère, trop chère pour de nombreux habitants, comme on a pu l'entendre. C'est le point de départ de cette crise, avec une revendication pour les Martiniquais que les prix de l'île soient alignés avec ceux qui sont pratiqués en métropole. On en parle avec le sociologue Pierre Audien, enseignant à l'Université des Antilles en Guadeloupe. Il était l'invité d'Anne Cantner dans RFI Midi.
Cette revendication, aligner les prix sur ceux de la métropole, est-ce qu'elle est réalisable ?
En fait, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que c'est une question extrêmement ancienne, puisque cette différence de prix via toute une série de taxes, d'impôts indirects, au contraire d'exonérations qui vont frapper le transport et l'acheminement des denrées et des produits logistiques dont la Guadeloupe et la Martinique sont dépendantes, c'est une question qui est vieille comme la départementalisation de 1947. Donc la première solution qui avait été trouvée, ça avait été d'aligner un certain nombre de rémunérations, dont celles des fonctionnaires, sur cette cherté de la vie. C'est pour ça que les fonctionnaires aux Antilles touchent une prime de vie chère. Et jusque-là, le mécanisme a perduré. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas très bien sur quel levier s'appuyer pour pouvoir aligner effectivement les prix en Martinique et en Guadeloupe, qui sont, je le rappelle, d'à peu près 40% plus cher pour ce qui est des denrées alimentaires, avec ceux qu'on connaît dans la grande distribution, dans l'Hexagone.
Puisque vous parlez de la grande distribution, c'est vraiment l'un des points qui est mis en cause par ce fameux mouvement, par ce collectif RPAC, qui met en cause les marges de cette grande distribution. Est-ce qu'on sait si ces marges sont plus importantes qu'ailleurs en France ?
C'est-à-dire que le schéma ne fonctionne pas exactement de la même façon. Derrière l'idée qu'il y a cette profitation, cette cherté de la vie, il y a évidemment la différence entre le panier de biens en Guadeloupe, en Martinique, et puis ce qu'on observe dans l'Hexagone. Mais il y a aussi une suspicion qui plane à la fois sur la question du fret, puisque les compagnies qui se chargent d'acheminer les denrées via le transport maritime dégagent des profits qui sont extrêmement importants. Je rappelle, CMA CGM, c'est 23 milliards d'euros de profits l'an passé. Et puis, il y a aussi le fait qu'un certain nombre de familles qui sont aujourd'hui propriétaires de la grande distribution sont d'anciennes familles blanches créoles qui sont héritières d'une histoire et d'un passé esclavagiste.
Oui, c'est ça, c'est une question qui est particulièrement sensible en Martinique.
Elle est particulièrement sensible parce que, au-delà de la question de la vie chère en elle-même, c'est révélateur d'un certain nombre d'inégalités. Inégalités de traitement perçues entre ce qui se passe dans l'Hexagone et ce qui se passe sur les territoires ultramarins, et inégalités à l'échelle du territoire, puisque les grandes familles dites béquées sont toujours soupçonnées d'accumuler un certain profit et de tirer parti en fait de l'acheminement des denrées vers la Guadeloupe et la Martinique de façon exclusive pour accroître un profit en étant gestionnaire de grands groupes et de grandes enseignes françaises.
Et elles sont soupçonnées à juste titre ?
La question, c'est que quand on décompose en fait le prix des produits tels qu'ils sont vendus dans les grandes surfaces, il y a bien une partie qui est due effectivement à un certain nombre de coûts d'acheminement qui peuvent être expliqués, mais il y a une partie aussi qui est fixée directement par les directeurs des enseignes et par les gestionnaires. Donc la question que pose un certain nombre de consommateurs et de citoyens en Guadeloupe et en Martinique, c'est quelle est officiellement la part qu'on doit à cette importation exclusive et quelle est la part en fait qui fait partie du profit et qui va directement dans la poche de ces grands groupes et de leurs gestionnaires locaux.
Et est-ce qu'il est possible pour la Martinique de moins importer ?
Alors, il serait éventuellement possible de moins importer, mais ça demanderait à revoir le schéma de la production locale, puisque faut dire aujourd'hui que la Martinique importe quasiment 90% des denrées qui sont consommées. Alors, on peut s'imaginer qu'en encourageant les exploitations agricoles, en encourageant des formes de production locale, en important de territoires qui sont moins éloignés, c'est ce que fait par exemple l'île de la Dominique, qui est une île voisine de la Guadeloupe et de la Martinique, on pourrait sensiblement réduire un certain nombre de coûts et avoir un circuit de consommation qui soit à la fois plus respectueux de l'environnement et un peu raccourci par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui.
Il y a un peu plus de 10 ans maintenant, après déjà de grandes manifestations, le dispositif du bouclier qualité-prix avait été mis en place. Qu'est-ce qu'il a changé et est-ce qu'il a encore un effet aujourd'hui ?
Alors, la question du bouclier qualité-prix, c'est une question un peu complexe, parce que ce qui s'était passé en 2009, c'est que ce bouclier qualité-prix, finalement, avait été mis en place comme le pendant de la revendication centrale des organisations syndicales qui avait été à l'origine de la grève de 2009, qui était une augmentation de salaire. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, que semble demander la plupart des manifestants en Martinique, c'est avant tout que l'État intervienne pour réguler les prix auprès des grandes surfaces et pour faire cesser les marges abusives. À l'époque, cette revendication de gel des prix, elle était couplée avec celle de la hausse des salaires parce qu'elle était portée par des organisations syndicales. Donc, la question par rapport à 2009, c'est que manifestement, les organisations syndicales qui étaient aux avant-postes le sont moins dans cette contestation. Et du coup, la seule solution envisagée, c'est de trouver une espèce d'intervention de l'État pour pouvoir réguler les prix à la base.
Le sociologue Pierre Audian, enseignant à l'Université des Antilles en Guadeloupe, il était l'invité d'Anne Cantner dans RFI Midi. RFI Midi, vous le savez, c'est tous les jours à partir de 11h, temps universel. Mais pour l'heure, il est minuit 16 ici à Paris. Reportage France qui nous emmène au nord de Paris, à une cinquantaine de kilomètres de la capitale. Un hameau prend les choses en main et se prépare en cas d'inondation. Situation on ne peut plus d'actualité avec la tempête Boris qui a secoué l'Europe centrale le week-end dernier. Alors pour faire face à ces épisodes météorologiques extrêmes, beaucoup prennent les devants, comme par exemple avec la création de digues, de barrages ou encore des retenues d'eau pour ne citer que ça. Mais également des solutions plus naturelles, souvent sous-estimées et pourtant bien moins chères, en redonnant place à la nature. Reportage au hameau de la Bordée, c'est en amont de la rivière Nonette, au nord de Paris. Reportage signé Jeanne Richard.
Donc en fait, avant, toute l'eau arrivait ici et arrivait direct dans le hameau.
À chaque gros orage, c'était toujours la même chose. La pluie entraînait la terre des champs d'Olivier Piala et la boue envahissait les quelques maisons du hameau de la Bordée en contrebas. Pour l'agriculteur, c'était aussi des dégâts dans les plantations.
On perd le sol, on perd la culture qui est sur place, qui peut être impactée par des ruissellements. En Seine-Maritime, par exemple, il y a des champs qui ont baissé de niveau tellement il y a eu des ruissellements.
Il s'est donc porté volontaire pour tester quelques aménagements simples basés sur des solutions naturelles avec l'aide de Clara Morvan, directrice technique du syndicat des eaux de la Nonette. Exemple.
Donc on a la fameuse fascine. La fascine, on voit ici, c'est un dispositif de fagot de bois bien tassé. Finalement, quand vous avez de l'eau avec de la boue qui va passer en travers, ça vous fait un filtre. La terre, elle est bloquée derrière, l'agriculteur peut la récupérer et la répandre. Et puis finalement, on a aussi vraiment une infiltration très importante. Après, on a d'autres aménagements, donc on a une noue juste derrière nous.
Alors une noue, c'est quoi une noue ?
Alors une noue, c'est un fossé très très doux, avec une pente très douce, et en fait, il a l'intérêt d'être enherbé. En plus de pouvoir retenir de l'eau à l'intérieur, l'herbe va aussi avoir un rôle de filtration et d'infiltration, c'est-à-dire que les racines de l'herbe qui pousse va aussi permettre d'infiltrer encore plus rapidement et plus efficacement l'eau.
Installation de fascines, de noues, plantation de haies ou mise en place de prairies inondables en cas de crue, il existe toute une gamme de solutions pour retenir l'eau et empêcher l'érosion, des aménagements qui apportent d'autres avantages.
Ce sont des refuges pour la faune et la flore aussi, ce sont aussi des zones où on va avoir plus de fraîcheur, et puis l'eau qu'on a réussi à stopper, à éviter le ruissellement et qu'on a permis d'infiltrer grâce à ces aménagements, cette eau-là elle va venir recharger la nappe phréatique. En période de sécheresse, le sol va pouvoir mieux résister parce que effectivement on a pu remplir ces réserves hydriques.
Et si le hameau de la Bordée n'est pas à l'abri d'une catastrophe météo exceptionnelle à l'avenir, les travaux réalisés il y a 5 ans semblent pour l'instant donner de bons résultats, explique Olivier Piala.
Il n'y a plus d'eau dans le hameau, donc les installations ont bien fonctionné. Et je vois de plus en plus de haies qui se plantent dans la région, donc c'est plutôt bon signe.
En France, une personne sur 4 est exposée au risque d'inondation et les dégâts à venir sont estimés par les assureurs à 50 milliards d'euros jusqu'en 2050.
Des solutions naturelles ancestrale pour mieux affronter les inondations. Reportage France, signé Jeanne Richard, à retrouver sur notre site RFI.fr. Il est 19h ici à Paris, 9h19 à Nouméa.
Le journal des Outre-mer.
Avec à la une, 4 mois et une semaine après le début des événements, la situation reste encore et toujours inflammable en Nouvelle-Calédonie, notamment du côté de la tribu de Saint-Louis, entre Nouméa et le Mont d'Or. Bonsoir Benoît Ferrand.
Bonsoir. Illustration dramatique, s'il en était besoin, de ce face-à-face qui n'en finit plus entre certains jeunes de la tribu et les forces de l'ordre. Ces affrontements dans la nuit de mercredi à jeudi qui ont fait 2 victimes. Reportage ce jeudi matin à l'entrée de la tribu sur la route territoriale numéro 1, signée Thérèse Ouaya.
7h ce matin au checkpoint de Tabor, la tension est palpable. Venu couvrir le transfert des écoliers de Saint-Louis vers la Conception, nous apprenons qu'une intervention de la gendarmerie menée la nuit dernière à la tribu a fait un mort. Les esprits vont vite s'échauffer lorsque les gens apprennent que le jeune homme qui venait d'être transféré au Medipôle n'a pas survécu à ses blessures. S'enchaîne alors un face-à-face houleux, mais point de jet de pierre du côté des manifestants, ni d'usage de la force du côté des gendarmes, juste de la colère des riverains face à une situation qui dure depuis 4 mois.
J'habite ici et tous les jours on subit ça. Tous les jours on subit cette répression, surtout les gens de la tribu. Je pense que c'est pas normal.
Et la tension aura toutes les peines du monde à retomber avec l'annonce d'un deuxième décès. Il s'agit d'un jeune homme dont le corps aurait été retrouvé à la rivière. 9h, la famille de ce dernier arrive au verrou de Tabor, contrôle d'identité et de bagages avant de se rendre à la tribu.
47% des logements en Guyane souffriraient d'un défaut grave, soit presque un logement sur deux dans le département français de l'Amérique du Sud. Un chiffre qui peut s'expliquer par le développement anarchique de l'habitat dit informel, mais en partie seulement. Autant dire que la lutte contre les conditions de logement indignes a encore du pain sur la planche. Alexandra Silbert.
Quartiers informels, bidonvilles, immeubles squattés, l'habitat indigne est un vaste sujet en Guyane dont le traitement peine à décoller. Le plan départemental de lutte contre l'habitat indigne existe depuis 2019, mais son plan d'action n'a été signé qu'en 2023. Parmi les acteurs, l'ARS en charge de constater les situations, mais les signalements sont peu nombreux. Adrien Ortelli, responsable du service santé environnement à l'ARS Guyane.
Donc on reçoit des signalements, une 60aine par an, de locataires qui pensent vivre dans un logement insalubre. On mène pour le préfet une procédure d'insalubrité qui vise à ce que le propriétaire fasse des travaux dans le logement pour le rendre à nouveau salubre.
Un seul plan local existe à ce jour, celui de la CACL, signé en février 2024. Le logement, un sujet bien connu du maire de Macouria. Gilles Adelson est aussi premier vice-président de la CACL en charge de l'habitat.
Il est clair que le quartier donc, de Sablon, c'est une problématique. Nous travaillons sur la réhabilitation avec l'EFPAG, avec la CACL et avec les services de l'État pour apporter une solution. Donc, que ce soit donc, des RHI ou du relogement.
En 18 mois, les actions du plan départemental de lutte contre l'habitat indigne se limitent à de la formation, un guide en ligne et un projet de guichet unique. Les élus, eux, attendent des actions de terrain efficaces et rapides.
Retour dans l'océan Pacifique pour terminer. Apprendre dès le plus jeune âge que les fruits et légumes ne poussent pas sous plastique dans les supermarchés, c'est le but du projet Jardin École, projet lancé il y a 5 ans dans les 2 écoles de Futuna, où un jardin potager a été créé. Reportage Malia Fatima Pagnatele.
On retrousse les manches. Ce lopin de terre doit être travaillé. Car cette année, il accueillera les futures salades et autres légumes de ses jardiniers en herbe. Ce sont les élèves du cycle 2 de l'école de Kolopelou qui se lancent dans leur projet de potager. Et apparemment, le jardinage ne leur est pas inconnu. Les apports de la terre nourricière n'est plus un secret.
On est en train de planter des plantes, des salades et des tomates.
Tu es contente ?
Oui. Parce que j'aime bien planter les plantes.
Lancée il y a 4 ans dans les écoles de Lille, l'idée est de promouvoir l'alimentation saine. Pas de pesticides, pas de produits génétiquement modifiés. Le bio est déjà assimilé.
On essaie de faire passer le message à travers les enfants, car les parents, ils écoutent plutôt, enfin, je ne dirais pas qu'ils écoutent plutôt, mais le message passe plus vite à travers les enfants qu'à travers les médias ou peu importe. J'ai questionné un peu les instituteurs. Ils voient un changement depuis qu'on a mis en place ce projet.
La récolte est prévue dans quelques semaines et ça tombe bien car ces légumes seront exposés et partagés lors de la semaine de l'alimentation saine.
Fin de cette édition. Bonne soirée.
Merci beaucoup Benoît Ferrand. Très bonne soirée à vous aussi.
Le Conseil Santé avec Sumo Assurance.
Et on revient sur une émission spéciale consacrée à la situation sanitaire en Haïti, Caroline Paré.
Dans Priorité Santé, on parle de la santé en Haïti et pour ce nouvel état des lieux, nous donnons la parole à des acteurs du soin qui témoignent des difficultés d'accès aux structures de santé, des prises en charge entravées par les barrages, des bandits, des zones passées sous la coupe des gangs et simultanément des besoins accrus par la violence au quotidien, camps de déplacés, crise économique, crise sociale, facteurs de malnutrition, terrain pour les infections, en particulier chez les enfants, comme en témoigne le docteur Marie-Marcelle Deschaux, qui est médecin et directrice adjointe des centres GESCIO.
Ce sont les infections cutanées qui peuvent effectivement avoir des complications fatales pour les enfants particulièrement, avec septicémie, insuffisance rénale, atteinte cardiaque, en fait tout ce qu'on sait. Mais on peut insister sur les messages comme on fait au niveau des camps, mais il faut avoir les moyens. Et la deuxième pathologie que nous avons notée aussi, ce sont les cas de diarrhée, particulièrement chez les enfants. Les enfants sont les plus affectés. Ensuite, ce sera les adolescents. Ensuite, tout dépend de la pathologie dont on parle. Lésions cutanées, c'est particulièrement chez les enfants. Mais à un certain moment, ces lésions se transmettent aussi aux mamans. Donc, ça a un effet de chaîne, un effet de domino et après, tout craque.
Priorité santé, témoignage de soignants d'humanitaire qui exercent en Haïti à 9h10 et 1h10 temps universel, 5h10, 19h10 heure de Port-au-Prince et à toute heure bien sûr en podcast sur l'appli RFI Pure Radio.
Et c'est complet. Merci beaucoup Caroline Paré. C'est ainsi que se referme cette édition de 24 heures en France, votre rendez-vous d'information consacré à l'actualité française. Aux manettes ce soir, Fabrice Violet, à la rédaction en chef Loïc Bussière. Merci à eux deux. Le retour de l'actualité, c'est dans un peu plus de 3 minutes, Afrique Soir, avec Zéphirin Quadio. Mais en attendant, comme tous les soirs, à 7h06, minuit 27, ici à Paris, direction la Bourse de New York.
Le rendez-vous de Wall Street.
Et comme tous les soirs, évidemment, c'est avec Pierre-Yves Dugas.
Après une séance de surprise et d'hésitation hier, en réaction à la baisse plus forte que prévue du taux directeur de la Fed, aujourd'hui le Dow Jones bondit de 522 points et atteint un record à 42 025. L'indice du Nasdaq s'envole de 441 points et clôture à 18 014. Les marchés d'actions sont donc euphoriques, convaincus que la Banque centrale américaine va réussir son atterrissage en douceur, c'est-à-dire va ramener l'inflation à 2%, tout en préservant la croissance et en évitant donc une récession. En revanche, le marché obligataire, lui, souffre. Les rendements des obligations du Trésor américain de plus de 3 ans grimpent aujourd'hui. Les investisseurs sur ce marché-là redoutent que l'inflation soit plus coriace que ne l'affirme la Fed, et s'alarme du refroidissement du marché de l'emploi. Ils perçoivent la baisse de 0,5% du taux des Fed Funds décidée hier comme un signe d'inquiétude de la Banque centrale, inquiétude sur le risque de récession, et ils voient la Fed enchaîner bientôt d'autres fortes baisses de taux supérieures à ce qu'elle laisse entendre, alors que l'inflation n'est pas encore vaincue. Les valeurs du secteur des semi-conducteurs, en tout cas, font figure de vedette aujourd'hui. Nvidia, AMD, Broadcom, par exemple. Et les géants de la tech
sont très près dans la foulée, Apple, Microsoft, Amazon notamment. Le secteur bancaire participe à la fête. On note de belles hausses des cours de Bank of America ou encore Wells Fargo. Le dollar souffre car les baisses de taux anticipées rendent le billet vert moins attractif et l'euro remonte à 1,1166. Le pétrole américain regagne plus d'1% pour revenir à près de $72. Le Dow Jones, en grimpant de 1,3%, établit un nouveau record. Le Nasdaq s'offre 2,5%.
Demain sur RFI, vous m'en direz des nouvelles avec Jean-François Cadet.
Il se définit comme un cogneur de l'invisible. Le musicien et réalisateur d'origine togolaise, poète, rappeur, designer, militant panafricaniste Elom Vince nous présente son cinquième album hors temps avec le pianiste et jazzman ghanéen Kamaru Kwakantoni.
Vous m'en direz des nouvelles ? Rendez-vous avec Jean-François Cadet du lundi au vendredi à 15h10 TU.
RFI. Les dessous de l'Infox. Sophie Malibaud.
Entre les patrons des grandes plateformes et les États, c'est l'épreuve de force. TikTok aux États-Unis, X au Brésil ou Telegram en France en sont l'illustration. Quels sont les acteurs en capacité de modeler les activités sur Internet ? Nous interrogeons Valère Ndior, chercheur au Centre Géode pour géopolitique de la datasphère.
Les dessous de l'Infox avec Sophie Malibaud, tous les vendredis à partir de 17h30 TU sur RFI.